Place Info.
Un TGV Ouigo sur 3 demain à la SNCF. L'arrêt de travail des conducteurs et des contrôleurs de la SNCF se poursuit. Et le débat sémantique qui fait rage, exercent-ils leur droit de retrait pour raison de sécurité ou est-ce une grève sauvage? Le Premier ministre s'est invité dans cette bataille. Et puis, the never-ending Brexit, l'interminable feuilleton de la sortie des Britanniques de l'Union européenne est sans doute un nouveau report à venir. En verra-t-on un jour la fin? Réponse dans les informés avec Pierre Jacquemin, rédacteur en chef de Regards, Geneviève Garrigaud, responsable américaine d'Amnesty France, Pierre Dumazeau, directeur de la rédaction de la Lettre de l'Expansion, et à vos côtés, Cécilia Gabizon, fondatrice de la School Media Maker, encore un anglicisme. Bonsoir, bienvenue à toutes et à tous. Nous sommes ensemble jusqu'à 21h à la radio, à la télé, canal 27 de la TNT. Et au premier jour des vacances de la Toussaint, la pagaille dans les gares, un peu partout, Rhône-Alpes, Auvergne, Sud-Est, Atlantique-Ouest et Île-de-France. En cause, un arrêt de travail des conducteurs et contrôleurs de la SNCF et des passagers un peu agacés.
On n'a pas de train pour l'instant, on devait partir à 10h19 et on n'a pas de train.
On a été prévenu à la dernière minute hier soir à 22h30, donc non, pas du tout satisfaite de la SNCF.
C'est du n'importe quoi les grèves quoi, on nous traite comme des vaches et nous impose en fait de prendre des trains à n'importe quelle heure.
On a essayé d'appeler un Blablacar, enfin de réserver un Blablacar, on n'a pas de nouvelles, on espère qu'on va avoir des nouvelles et on va réussir à pouvoir partir en vacances.
Et débat autour des termes utilisés, hein, droit de retrait ou grève sauvage, les mots ont leur importance et on va y revenir. On entendra notamment le Premier ministre qui monte au front. Avant cela, Cécilia Gabizon, fondatrice de la School Media Maker. On a entendu les voyageurs se plaindre et notamment du fait que ces incidents ou ces arrêts de travail se produisent systématiquement au moment des départs de vacances. Est-ce que c'est une vue de l'esprit ou est-ce que c'est votre sentiment aussi?
Oui, mais c'est toujours des débats qui sont gênants parce qu'en fait, on se place en général du point de vue de l'utilisateur, de l'usager. Et c'est vrai que c'est horrible, tous ces gens qui doivent partir, les vacances, le chaos, le sentiment d'être pris en otage. Ça, c'est le vécu. Et puis, mais quand c'est pas les jours de vacances, parce que les jours de vacances, ça amplifie. Mais il y a d'autres grèves, et notamment pour les gens qui vivent en banlieue ou en lointaine banlieue, ils sont complètement prisonniers des trains. C'est-à-dire que sans train, on nous pousse quelque part dans nos comportements à adopter les transports en commun. Et en fait, on le fait. Et au moment où il y a des grèves, heureusement ça reste exceptionnel, mais au moment où il y a des grèves, on est littéralement cloué sur place et bloqué. Donc c'est bien sûr le jour des vacances, ça donne plus de retentissement. Là on parle de grève déjà en décembre, donc on sait que les vacances vont être mises en chaos. Mais au quotidien, quand il y a des soucis et que les trains s'arrêtent, de toute façon les gens sont complètement pris en otage aussi et complètement cloués chez eux. Quoi. Donc après, c'est toujours la même question sur les grèves, est-ce qu'il y aurait des grèves justes? Et il y en a forcément, c'est-à-dire que dans ces sujets-là, il faut comprendre ce qui est sur la table et ne pas prendre toujours, par contre, l'usager un peu en otage de ces débats. Est-ce qu'il y aurait moyen de faire autrement?
Et on va revenir sur le débat de fond, mais pour rappeler d'où part ce mouvement, hein, le point de départ, c'est une collision donc mercredi entre un TER et un camion à hauteur d'un passage à niveau dans les Ardennes avec 11 blessés. Pierre Jacquemin, rédacteur en chef de Regards, c'est regrettable cet accident. Ce n'est pas le premier. Pourquoi celui-là a un retentissement national?
Parce que je pense que les salariés de la SNCF veulent sonner la sonnette d'alarme, justement. Je pense que ça arrive à un moment où, effectivement, c'est les vacances. D'ailleurs, c'est ce sur quoi veut jouer le gouvernement, jouer un peu l'opinion, c'est-à-dire prendre la défense des usagers. Et c'est bien normal que les usagers soient en colère.
Est-ce qu'il y a derrière le débat sémantique entre grève et droit de retrait? C'est la bataille de l'opinion?
Je pense qu'il va y avoir une bataille sémantique sur l'histoire du droit de retrait. Est-ce que c'est vraiment l'occasion de prendre un droit de retrait? Est-ce que ça va être vérifié? Et justement, le problème, c'est que le gouvernement veut aller sur le terrain judiciaire, alors que le terrain, il est éminemment politique et syndicale, et que je pense que ce que font aujourd'hui les salariés de la SNCF, c'est une mise en alerte aussi des usagers. C'est-à-dire qu'ils ne disent pas, c'est pas un moment où il va y avoir des revendications salariales ou des revendications de statut des cheminots, c'est une question de sécurité à la fois des cheminots, mais aussi des usagers. C'est-à-dire que ce qui s'est passé, ce qu'on oublie de dire, c'est qu'il y a eu presque un geste héroïque du conducteur du train du TER qui, en plus blessé, est allé secourir seul les 70 passagers de ce TER-là. Et c'est ça que dénoncent aujourd'hui les salariés de la SNCF. C'est-à-dire, c'est l'absence de sécurité pour les usagers. C'est pas possible aujourd'hui qu'effectivement sur un transport quotidien, il n'y ait que dans un train en l'occurrence, un seul conducteur et absolument personne pour accompagner le conducteur. Le conducteur vient faire un malaise dans le train ou le conducteur aurait pas été en capacité d'aller soutenir justement les 70 personnes s'il avait été blessé plus gravement. On aurait eu une catastrophe bien plus importante. Donc encore une fois, il faut bien entendre que j'entends la colère des usagers, c'est bien normal, mais il faut entendre ce que veulent dire aujourd'hui. Quel est le message qui est porté. Le message, il est porté sur l'absence de confort presque aussi, de sécurité quotidienne pour les salariés et aussi pour les usagers. Mais il y a aussi toute la détérioration des lignes de chemin de fer. C'est aussi ça que dénoncent les cheminots. C'est-à-dire que les accidents, on a connu quand même des graves il y a encore peu de temps. Je pense à Brétigny-sur-Orge, par exemple. C'est tout ça qui est dénoncé aujourd'hui. Donc le droit de retrait, j'entends que le gouvernement veut jouer là-dessus sur le fait qu'il va nous expliquer que c'est pas légitime d'avoir exigé le droit de retrait. J'ai entendu les commentaires des inspecteurs de travail qui disent évidemment c'est légitime, c'est votre sécurité, c'est celle des usagers qui est en cause. Donc c'est ça, il va falloir faire attention au terme du débat là aussi.
Pierre Dumazeau, est-ce que vous êtes d'accord avec Pierre Jacquemin, rédacteur chef de Regard, quand il dit c'est un droit de retrait qui s'exerce légitimement au nom de la sécurité? On sait que ce débat il existe au sein même de la classe politique.
Oui, bien sûr, ce débat il existe. Je crois qu'il y a une trame de fond qui est plus large. Effectivement, là on met l'accent sur la sécurité. Vous avez raison de le rappeler, c'est absolument anormal qu'il y ait un seul conducteur de train qui étant blessé a secouru des personnes, mais il y a une trame de fond beaucoup plus large qui est prise depuis des années sur qu'est-ce qu'on veut faire de la SNCF. Je pense par exemple au nouveau statut de la SNCF qui va apparaître en 2020. Là encore, les syndicats et les cheminots sont absolument pas d'accord. Il y a les questions de sécurité.
Vous dites qu'il y a un climat global, un contexte.
Il y a un climat global de syndicats, des conducteurs, aussi de transiliens, d'agents de transiliens et de RER qui se font agresser. Il y a aussi en toile de fond la réforme des retraites sur laquelle les syndicats ne sont bien évidemment pas d'accord avec le gouvernement. Donc tout ça fait que aujourd'hui l'incident et l'accident qu'il y a eu ces derniers jours fait remonter toute cette chose-là, cette espèce de trame de fond. Mais je crois que la question, elle est un peu plus profonde, c'est qu'est-ce qu'on veut vraiment faire de la SNCF? Pendant des années, on ne veut pas la privatiser, mais d'un autre côté, on privatise certaines de ses filiales, on a hésité et finalement on en fait une société anonyme. Le gouvernement ne sait pas ce qu'il veut faire et on y reviendra. Mais les mots d'Édouard Philippe et du secrétaire d'État Djebbari ont été d'une violence absolue.
Édouard Philippe, qu'on entendra dans quelques instants, parce que lui, sur cette question du débat sémantique, eh bien, il a une position assez tranchée. On l'entendra juste après le rappel de l'information, 20h10 sur France Info. Maureen Suinard nous a rejoint.
C'est à Londres de Dundonné, la marche à suivre dès que possible. Réaction de la Commission européenne qui prend acte du vote des députés britanniques sur le Brexit. Ils ne se prononcent pas sur le texte négocié entre Bruxelles et Londres cette semaine. Le Premier ministre Boris Johnson assure qu'il ne demandera pas de report à l'Union européenne. Emmanuel Macron demande lui une clarification rapide. Situation encore très confuse dans les gares françaises. Conducteurs et contrôleurs exercent leur droit de retrait après un accident cette semaine. La direction de la SNCF envisage de saisir la justice et promet qu'un Ouigo sur trois circulera demain. Les autres prévisions de trafic seront annoncées demain matin. 2600 personnes mobilisées contre le plan social de General Electric à Belfort. Près de 800 postes menacés. Manifestation en présence notamment de Jean-Luc Mélenchon de la France Insoumise. Pour lui, Emmanuel Macron a abandonné un fleuron de notre industrie nécessaire à la transition énergétique. France Pays de Galles, c'est l'affiche des quarts de finale de la Coupe du Monde de rugby. Demain, à partir de 9h15, le 15 de France qui tentera de rejoindre les All Blacks et les Anglais déjà qualifiés pour les demi-finales. Et puis c'est reparti pour la 10e journée de Ligue 1 de football. 5 matchs en ce moment. Reims mène face à Montpellier 1-0. En cours également, Nîmes, Amiens, Metz, Nantes. Et plus tôt dans l'après-midi, Lyon et Dijon se sont quittés sur un 0-0.
France Info. Et tout est plus clair.
20h, 21h, les informés, Neïla Latrousse.
Droit de retrait ou grève sauvage à la SNCF, débat sémantique tranché en tout cas par le Premier ministre Édouard Philippe qui a fait son choix tout à l'heure lorsqu'il s'est rendu garde de l'Est à Paris.
Cette grève sauvage, elle a un impact inacceptable pour des dizaines et des dizaines et des dizaines de milliers de Français qui ne peuvent pas rejoindre leur famille. Qui ne pompent pas, hier, n'ont pas pu rejoindre leur travail ou rentrer chez eux dans de bonnes conditions. J'ai demandé à la SNCF d'examiner toutes les suites qui pouvaient être données, et notamment les suites judiciaires.
Des cheminots qui, eux, estiment évidemment être dans leur bon droit.
Nous, on a des courriers des inspecteurs du travail de Champagne-Ardenne et d'Alsace qui indiquent bien clairement qu'au vu des éléments portés à leur connaissance, cette action présente bien un motif raisonnable de danger grave et imminent pour les salariés, comme le stipule l'article du Code du travail. Donc on n'est pas, on détourne pas la loi.
On vient d'entendre Didier Matisse, secrétaire général de l'UNSA Ferroviaire, Pierre Jacquemin, rédacteur en chef de Regard, dans ce bras de fer On a évoqué la bataille de l'opinion. Est-ce que la question juridique a quelque chose à voir aussi dans le fait que les uns ou les autres utilisent des mots différents ?
Voilà. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, on commence à être habitué par la méthode du gouvernement. C'est-à-dire qu'à chaque mobilisation sociale, on va aller sur le terrain du répressif, on envoie les forces de l'ordre, ou maintenant, on va sur le terrain de la judiciarisation. C'est-à-dire que même les militants écologistes, on les envoie devant les tribunaux, ou les militants qui luttent pour l'accueil des migrants, on les envoie aussi derrière les tribunaux. Donc, cette politique qui consiste systématiquement à répondre à une question politique par une réponse répressive, une réponse sur le terrain judiciaire, n'est plus possible, n'est plus entendable. Et c'est là où, aujourd'hui, je pense que ce gouvernement prend un risque, ou en tout cas est face à un danger qui est celui d'une remobilisation justement sociale. On le voit aujourd'hui, il y a les cheminots, on voit aussi du côté de plus largement des services publics, les hôpitaux, les urgentistes, les pompiers, la police nationale. Il y a un ras-le-bol général, d'une manière générale. Et on voit aussi avec les gilets jaunes, l'échec du gouvernement, c'est de ne pas avoir réussi à porter une réponse politique, d'être toujours allé sur le terrain de la répression. Et ça n'est plus possible. Ce climat-là, de répression permanente, de judiciarisation de la vie politique est insupportable. Et je pense que le Premier ministre a fait une grave erreur ce matin. Effectivement, le syndicaliste l'a rappelé, il y a eu plusieurs expertises d'inspecteurs du travail qui ont bien signifié que le droit de retrait des salariés de la SNCF était tout à fait justifié et raisonnable. Et raisonnable parce que c'est la sécurité, encore une fois, des travailleurs qui est mise en cause et aussi celle des usagers qui prennent le train.
Sur la stratégie du gouvernement, je vais donner la parole à Pierre Dumazeau, directeur de la rédaction de l'Expansion, dans quelques minutes. À vos côtés, tout de même, Geneviève Garrigos, responsable Amérique d'Amnesty France, sur ce que dit Pierre Jacquemin de la réponse répressive, de la judiciarisation. Est-ce que c'est des techniques, vous, en tant que responsable associatif sur un continent, que vous constatez ailleurs ou que vous constatez de plus en plus présentes, de plus en plus nombreuses en France ?
Bien, c'est effectivement, on constate que cette judiciarisation, elle est utilisée beaucoup contre les leaders sociaux, contre les personnes engagées, les défenseurs, etc.
Et il suffit de voir. Ce sont des stratégies qui existent, qu'on a vu ailleurs.
On le voit, mais sur la région Amérique, on le voit partout. Il suffit de voir ce qui se passe aujourd'hui, par exemple, en Équateur, où on est en train de poursuivre les leaders indigènes qui ont été à l'origine du mouvement qui a fait que les décrets qui avaient été adoptés par le président Lénine Moreno étaient adoptés et ont déclenché toutes ces manifestations. Bien, il y a une judiciarisation, mais le fait de la judiciarisation, elle est quasi systématique dans beaucoup, beaucoup de pays et c'est quelque chose qui se développe au fur et à mesure d'ailleurs qu'on voit le développement aussi de l'utilisation de méthodes répressives contre les mouvements sociaux. Et je dois dire que Si je peux rajouter, par rapport justement à toute cette question, ce qui, moi, m'inquiète, et là, en tant qu'usagère de la SNCF, c'est qu'effectivement, par rapport au discours qu'on entend des experts qui ont analysé et qui signalent qu'il y a des dangers, par rapport à l'accident qu'il y a eu, moi, j'aimerais que le Premier ministre, aujourd'hui, soit en capacité de me dire est-ce qu'il y a danger ou pas à prendre ces trains. C'est-à-dire que je trouve inquiétant qu'on ne réponde pas à la question des experts et qu'on soit juste, effectivement, adresser les usagers contre les personnels de la SNCF. Donc, qu'en est-il aujourd'hui de la sécurité dans le transport ferroviaire en France ? Et ça, pour moi, c'est une question majeure.
Cécilia Gabizon, fondatrice de la School Media Maker, c'était une erreur. Ce qu'a fait Édouard Philippe, il répond à côté de la question qui est posée.
Je pense que ça envenime. Par contre, on peut quand même se poser la question sur le droit de retrait, parce que ça a, quelque part, fait que la grève s'est déclenchée le premier jour des vacances, avec l'impact dont on vient de parler pour les usagers. On n'est peut-être pas obligé d'être toujours dans des bras de fer, de chaque côté. On n'est peut-être pas obligé d'être toujours dans des bras de fer.
Vous êtes d'accord quand même que depuis quelques mois, si ce n'est quelques années, il y a une véritable détérioration du dialogue social et du rapport de force.
Ça ne l'améliore pas non plus.
Ça ne l'améliore pas, mais voilà. C'est-à-dire qu'il faut faire les choses dans le bon ordre. C'est-à-dire qu'il faudrait que les partenaires sociaux soient consultés, soient écoutés, plus que consultés d'ailleurs. Écoutés, quand je dis écoutés, c'est qu'il puisse y avoir une vraie marge de manœuvre de négociation. Il n'y a plus de négociation aujourd'hui dans ce pays. Ils sont des véritables lanceurs d'alerte, finalement, les syndicalistes. Et visiblement, quand on écoute les syndicats, en plus, c'est même pas les syndicats qui sont derrière tout ça, derrière ce droit de retrait. Donc, on voit bien qu'aujourd'hui, la colère, elle va bien plus loin que celle des syndicats qu'on voudrait associer à l'image de protestataires permanents qui n'acceptent jamais rien, etc. Non, aujourd'hui, je pense que c'est des citoyens lambda qui sont aussi salariés de la SNCF qui lancent des alertes pour dire attention, il y a une véritable détérioration de notre trafic, de notre système ferroviaire. Encore une fois, l'entretien des lignes ferroviaires est complètement abandonné. Enfin, il y a donc des sujets qui sont.
C'est pas tout à fait vrai parce que je suis pas une spécialiste du transport, mais depuis Bretigny, il y a eu beaucoup d'argent et il y a encore beaucoup de travail à faire, mais il y a eu beaucoup d'argent mis dans la sécurité. Donc c'est pas tout à fait vrai. Et je pense que c'est pas en tout cas en antagonisant et en mettant toujours dans des situations de crise qu'on arrive à faire du dialogue et de la compréhension et de la construction de projets communs. Voilà. Donc Édouard Philippe, lui, met de l'huile sur le feu en judiciarisant et en même temps en invoquant le droit de retrait pour une situation en fait qui est connue depuis longtemps, puisque c'est pas ces trains circulent avec un seul conducteur depuis longtemps.
Oui,
donc une situation qui est connue depuis longtemps, c'est aussi aller au front et aller au bras de fer.
Voilà. Pierre Dumazeau, directeur de la rédaction de la lettre de l'expansion, quand Édouard Philippe demande à la SNCF d'envisager toutes les suites, y compris judiciaires, pardon de parler trivialement, c'est de la gonflette ou il y a une vraie menace derrière?
C'est, à mon sens, de l'hystérisation. Voilà. C'est hystériser le débat, c'est au lieu d'essayer de trouver des solutions, c'est de dire regardez le peuple français avec cette expression qui je trouve est très mal utilisée, prise en otage, regardez, ils ne peuvent pas partir en vacances, les familles sont déchirées, elles ne peuvent pas rejoindre. Ça c'est honteux parce que je pense que si les syndicats et même ceux qui ne sont pas syndiqués font grève, s'ils avaient un autre moyen de se faire entendre, je pense qu'ils le feraient. Et cette façon permanente de monter les Français, mais même pas les classes de métiers. On a vu des policiers réprimer des manifestations de pompiers. Là, on va faire
c'était
quoi
cette semaine à Paris, hein.
C'était cette semaine à Paris. Là, on va faire quoi? C'est-à-dire que les usagers vont aller casser la gueule des syndiqués parce que, regardez, ils font grève. Et donc, cette façon quasi systématique, quasi permanente, d'hystériser le débat dans une société où, sincèrement, on a vraiment pas besoin de ça aujourd'hui. C'est un peu honteux et c'est de la politique. Non seulement c'est de la petite politique et c'est de la politique qui est en plus, c'est facile. Les déclarations d'Édouard Philippe ce matin, elles sont faciles. Au lieu de dire bon, il y a quelque chose qui va pas, on met tout le monde sur la table. Effectivement, j'ai lu les rapports de l'inspection du travail. Cet accident, ce n'est pas normal. Ça, c'est une réponse politique, disons graduée. De dire que tout ça est hors du cadre légal, de dire qu'il faut donner des suites judiciaires, c'est à mon sens absolument pas correct du tout.
Et on continue à décrypter la méthode Édouard Philippe, 20h20 sur France Info. D'abord l'info avec Maureen Suinard.
Une nouvelle manifestation des indépendantistes catalans en ce moment en Espagne contre la condamnation de leurs dirigeants par la justice espagnole. Les autorités craignent de nouvelles violences. Hier, 500 000 militants de l'indépendance ont défilé à Barcelone. Il y a eu plus de 180 blessés. Manifestation également à Londres, des dizaines de milliers de personnes qui réclament un nouveau référendum sur le Brexit. Et cela alors que les députés britanniques refusent de se prononcer sur le texte négocié entre Londres et Bruxelles. Cette semaine, ils ont voté un amendement pour l'examiner point par point. Le Premier ministre Boris Johnson refuse d'envisager un report du divorce. Il sera encore très compliqué de prendre le train demain en France. La direction annonce ce soir qu'un train Ouigo sur trois circulera. On ne connaîtra les prévisions de trafic que demain matin pour les TER. Conséquence d'un droit de retrait exercé par des conducteurs et contrôleurs après un accident. Édouard Philippe dénonce un détournement d'un droit de retrait à l'impact inacceptable. L'Ardèche placée en vigilance orange, pluie, inondation par Météo France. Des orages avec de fortes perturbations vont toucher le département, notamment les Cévennes. L'alerte est valable jusqu'à demain soir, minuit. Le football avec la suite de la 10e journée de Ligue 1. Reims a ouvert le score face à Montpellier. 4 autres matchs en cours. Arrivée difficile cet après-midi pour Rudy Garcia, l'entraîneur de Lyon. Son équipe tenue en échec sur sa pelouse.
France Info. Et tout est plus clair.
20h, 21h, les informés, Neïla Latrousse.
Les propos d'Édouard Philippe rappelés à l'instant par Maureen Suinard. L'arrêt de travail des conducteurs et des contrôleurs de la SNCF serait pour lui un détournement du droit de retrait. Édouard Philippe qui était à la gare de l'Est à la mi-journée. Et un Premier ministre en première ligne sur fond de conflit à la SNCF, ce n'est pas une première.
La SNCF, nous sommes tous très fiers de cette grande entreprise nationale. Nous connaissons les TGV, c'est une des belles réalisations de l'industrie française. Mais ce qu'on ne nous a pas dit, ce qu'on nous a caché trop longtemps, c'est que cette entreprise ne se porte pas bien. Elle a des dettes considérables, je ne vous donnerai pas les chiffres parce qu'ils ne parlent pas à l'imagination. Elle perd de l'argent chaque année. Et ce qui est plus grave peut-être, c'est qu'elle transporte proportionnellement de moins en moins de passagers et de marchandises parce qu'elle résiste mal à la concurrence d'autres modes de transport, en particulier la route. Et donc là encore, si nous ne faisons rien, cette entreprise va aller vers des difficultés extrêmement graves. Il y a donc urgence à agir.
Cécilia Gabizon, fondatrice de la School Media Maker, c'était en 95, ça n'a pas pris une ride.
Très bien. Ouais. Je m'en souviens très très bien parce que j'étais jeune journaliste et donc la France était à l'arrêt. Il y a eu une grève générale immense qui a duré des semaines et qui a d'ailleurs été un grand moment de journalisme aussi parce que on était obligés tous de faire du stop. Donc en fait, j'étais régulièrement prise en stop par des gens avec qui nous parlions du métier de journaliste. Et il y avait déjà des questions qui se posaient que nous retrouvons aujourd'hui encore. Oui, ça n'a pas pris une ride. C'est vrai que la SNCF, alors, service public, service vital, on en a besoin, et en même temps, comment rentabiliser un service public, comment faire qu'il soit à la fois accessible, rentable et efficace.
Voilà. Bon.
Donc, en quelque sorte, toutes ces questions-là restent des questions fondamentales, d'ailleurs, du service public. Vous évoquiez les hôpitaux, et à mon sens, des questions centrales sur lesquelles on devrait effectivement passer non pas du temps de bras de fer, mais du temps de cerveau, à voir ensemble comment on construit ces services publics et quelle est la valeur, pas forcément uniquement la valeur marchande, mais la valeur pour un pays de ses services publics. Ça, ce sont des vraies questions super intéressantes. Et c'est marrant de retrouver Alain Juppé jeune qui fait ce discours et qui nous avait plongé dans 3 semaines de grève. J'espère qu'on va...
Alain Juppé, à l'époque Premier ministre, qui... Édouard Philippe, bon, lui, il n'était pas encore en politique, il préparait l'École nationale d'administration, l'ENA. Pierre Jacquemin, est-ce que le Premier ministre gère cette crise comme l'aurait fait son père spirituel, pour le coup?
Oui, sans doute, oui, parce qu'effectivement, il s'inscrit totalement dans les pas d'Alain Juppé, et j'espère qu'il a retenu les leçons, surtout d'Alain Juppé, droit dans ses bottes. Vous évoquez les mobilisations à venir, notamment celle de décembre. Si le gouvernement décide de maintenir cette ligne de fermeté, cette ligne de fermeture du dialogue social, parce qu'il a beau appeler à des consultations, a beau appeler les syndicats à revenir autour de la table pour discuter, pour échanger, s'il n'y a pas de grain à moudre ou s'il y a encore la menace justement de la suppression du statut de retraite des cheminots, sans doute qu'on va aller vers une prolongation du conflit. Je ne sais pas combien de temps va durer ce droit de retrait, mais ça risque de durer quand même quelques jours encore, je pense.
Est-ce que d'ailleurs c'est totalement indécent de se poser la question, puisque vous évoquez le 5 décembre, est-ce que ce droit de retrait n'est pas une répétition pour le 5 décembre?
Alors, il faut quand même rappeler que ce droit de retrait, il intervient après un accident. Donc je pense qu'on peut faire crédit aux syndicats de ne pas avoir prévu qu'ils allaient se mobiliser à la veille des vacances et qu'il y a un accident. Après l'accident, il y a un droit de retrait parce que c'est la question de la sécurité qui est mise en cause. En revanche, évidemment, on sait très bien qu'il se joue en ce moment un rapport de force avec le gouvernement. On sait que on va être au 1 an, il va y avoir bien en novembre, on va fêter les 1 an du démarrage, en gros, de la mobilisation des Gilets jaunes. Ça va être aussi les 14 ans, en tout cas, des émeutes dans les banlieues de 2005. Il y a la mobilisation à prévoir effectivement de la SNCF et de la RATP en décembre. Il y a celle des enseignants en ce moment. Il y a celle des syndicalistes urgentistes. Il y a quelque chose qui se passe dans la société depuis longtemps qui commence à prendre. Et donc ce rapport de force, il ne peut s'imposer qu'à travers une radicalisation aussi des mouvements sociaux.
Radicalisation.
Oui, je parle de radicalisation parce qu'aujourd'hui, je pense que face à l'absence d'écoute, l'absence de discussion avec le gouvernement, forcément, il y a une radicalisation des mouvements sociaux. Vous voyez sur la question climatique, par exemple, aujourd'hui, des mouvements comme Extinction Rebellion, qui sont franchement timides et gentils, sages en France, vous le voyez en Angleterre, vous le voyez à Berlin, par exemple, on est dans une rébellion beaucoup plus vive, beaucoup plus importante, qui a vocation à beaucoup plus bloquer le pays aujourd'hui. Quand je parle de radicalisation, ça veut dire, aujourd'hui, j'entends le discours du président, enfin du secrétaire national de la CGT, par exemple, qui n'a plus peur de parler de grève générale prolongée, des grèves générales reconductibles.
Il y a radicalisation, mais pas dans le sens de la violence.
Non, évidemment pas. Non, quand je dis radicalisation, c'est-à-dire que tout le monde trouve ça insupportable qu'il y ait des grèves de par-ci, par-là, et les syndicalistes en premier. C'est-à-dire qu'il faut des mouvements sociaux qui soient utiles. Et pour être utile, il faut radicaliser. Quand je dis radicaliser, ça veut dire des mouvements sociaux profonds, larges, qui convergent aussi, que tout le monde converge vers cette mobilisation. On ne peut pas y avoir des mouvements dispersés les uns à côté des autres. Non, je pense qu'il a vocation à construire une véritable convergence. Pour, je ne sais pas s'il faut bloquer, mais je pense que oui, des appels à la grève générale, à un moment donné, vont être utiles.
Il nous reste 30 secondes. Pierre Dumazot, directeur de la rédaction de la Lettre de l'Expansion. On entend rapport de force avec le gouvernement. Est-ce qu'il y a un rapport de force qui s'installe aussi avec le nouveau patron de la SNCF qui doit prendre son poste le 1er novembre, Jean-Pierre Farandou?
Évidemment. Être patron de la SNCF, c'est un poste éminemment politique. Voilà, Guillaume Pépi laisse la SNCF dans un état que chacun jugera bon d'analyser. Mais effectivement, pour le nouveau patron de la SNCF, c'est un vrai Oui, c'est un challenge, c'est un premier dossier extrêmement difficile. Je reviens juste une petite seconde sur le rapport de force et ces grèves générales évoquées. Le problème, c'est que je pense que dans la société, ce qui pouvait marcher à l'époque, aujourd'hui dans notre société qui est tellement individualiste et tellement du chacun pour soi, je pense que ça ne prendra pas, malheureusement. Raison pour laquelle le gouvernement essaie, comme Édouard Philippe l'a fait, de dire « Regardez tous ces utilisateurs mécontents, prenez-vous-en
syndicat. » C'est sûr qu'il joue la bataille de l'opinion. Mais...
Et dans quelques instants, direction Londres pour un autre sujet, the never ending Brexit. Je travaille mon accent en français, l'interminable feuilleton du Brexit. En verra-t-on un jour la fin? Réponse après la météo et le journal.
Avec le Secours Populaire, ils ont choisi de transmettre leur bonheur.
Bonjour, je m'appelle Françoise, j'ai 70 ans. Soucieuse de l'avenir des futures générations, j'ai décidé de faire un legs au Secours Populaire. Il me tient à cœur que mon patrimoine soit utile à ceux qui en ont le plus besoin, en France et dans le monde.
Legs Donation Assurance Vie, demandez notre documentation gratuite au 01 44 78 79 26 ou rendez-vous sur secourspopulaire.fr. Secours Populaire, on peut donner du bonheur, on peut aussi le transmettre.
Ça te stresse pas tous ces bouchons, toi?
Depuis que j'ai fait ma retraite en ligne, je suis zen.
Mais ça a dû prendre des heures.
Non, sur mademandederetraiteenligne.fr, c'est une seule demande pour toutes tes caisses de retraite 6 mois avant ton départ.
Hein?
Eh oui, ça simplifie la vie.
Rendez-vous sur mademandederetraiteenligne.fr. C'était un message de l'assurance retraite, votre retraite de la sécurité sociale.
France Info Météo, avec Gauthier, fabricant français de meubles de rangement sur mesure, pour toutes les pièces de la maison. À retrouver en magasin et sur gauthier.fr.
Les prévisions météo sur France Info, Jean-Michel Golinski.
Un dimanche, souvent sous la pluie, ou les averses et parfois les orages. Bref, un temps perturbé dans l'ensemble, avec tout de même un peu de soleil le long de la Manche, dans le quart sud-ouest et près des frontières de l'Est. Mais ailleurs, le parapluie sera de rigueur, sous un ciel maussade, du Poitou-Charentes au centre Val-de-Loire et du bassin parisien à la frontière belge. Et des pluies souvent soutenues à prévoir, du relief languedocien en remontant vers l'Alsace, avec de fortes précipitations, en particulier sur les Cévennes ardéchoises, placées en vigilance orange. Le vent orienté au secteur sud sera turbulent dans l'axe du Rhône, sur les Alpes et la Corse, avec des rafales à 100 km à l'heure sur les crêtes. Près de la Manche, là c'est le vent du nord qui sera sensible et frais, avec 12 à 15 degrés au nord de la Loire. Dans le sud-ouest, les valeurs vont osciller entre 17 et 19, contre 23 à 26 de Rhône-Alpes à la Méditerranée, et jusqu'à 32 sur la Corse du sud.
France Info, 20h30, toute l'information avec Olivia Chandiou. Bonsoir.
Bonsoir. Le trafic ferroviaire restera perturbé demain. La SNCF annonce que seul un TGV Ouigo sur 3 circulera. Elle donnera le reste des prévisions seulement demain matin. Depuis hier, les contrôleurs et conducteurs de la SNCF exercent leur droit de retrait après un accident qui a fait 11 blessés légers mercredi. Le trafic ferroviaire est donc très perturbé, ce qui exaspère les voyageurs, à l'image d'Aurore coincée à la gare de Lyon-Part-Dieu.
On n'a absolument eu aucune information, alors qu'a priori le mouvement de grève a quand même commencé hier. On aurait peut-être pu nous envoyer un texto ou un mail nous disant « Attention, il y a un mouvement de grève, faites votre maximum pour vous organiser autrement pour le lendemain aujourd'hui. » quoi. Beaucoup de colère, de fatigue, parce que franchement, je vous avoue que j'ai un petit garçon qui a 10 mois aujourd'hui, qui est chez nous là à Dijon, et il était prévu que je m'en occupe à partir de 13h30, donc compliqué. Un petit peu énervé, on va dire. Mon fils, c'est bon, il est pris en charge par le service junior et compagnie en direction de Toulouse. Et là, moi, j'attends mon train sur Dijon en espérant qu'il ne soit pas annulé.
De son côté, le Premier ministre Édouard Philippe dénonce un détournement du droit de retrait. Il demande à la SNCF d'examiner toutes les suites, y compris judiciaires, qui pourraient être données. Les syndicats l'accusent de jeter de l'huile sur le feu. Des manifestants étendus sur le sol à Paris pour dénoncer les féminicides. Depuis le début de l'année, 121 femmes sont mortes, tuées par leurs conjoints. Le collectif féministe Nous Toutes réclame 1 milliard d'euros pour lutter contre les violences faites aux femmes. Quelques centaines de gilets jaunes dans les rues de Clermont-Ferrand. Ils ont manifesté en hommage aux pompiers après le rassemblement mardi à Paris qui s'était conclu par des échauffourées. À Toulouse, 300 gilets jaunes ont défilé en début d'après-midi. Manifestation aussi au Royaume-Uni, dans les rues de Londres, noir de monde aujourd'hui. Plusieurs centaines de milliers de personnes qui réclament un nouveau référendum sur le Brexit, alors que les députés ont pris un amendement pour repousser l'approbation de l'accord négocié entre Londres et Bruxelles. Cette décision risque de contraindre le Premier ministre à demander un nouveau report de la sortie du Royaume-Uni de lieu, prévu dans 12 jours, alors que Boris Johnson s'y refuse. Le corps des 10 victimes françaises du crash d'un vol Ethiopian Airlines en mars dernier ont été rapatriés aujourd'hui. Leurs proches ont pu assister à une cérémonie d'hommage à l'aéroport d'Orly. Leur avion s'était écrasé quelques minutes après son décollage en Éthiopie. Il s'agissait d'un Boeing 737 MAX, l'un de ces appareils toujours cloué au sol après deux accidents du même genre et qui pourrait connaître un problème de conception. Et puis la suite de la 10e journée de Ligue 1 de football et un match nul 0 partout entre Lyon et Dijon pour le premier match de Rudy Garcia à la tête de l'Olympique Lyonnais.
20h, 21h, les informés, Neil Alatrousse.
Avec Pierre Jacquemin, rédacteur en chef de Regards, Geneviève Garrigou, responsable Amérique d'Amnesty France, Pierre Dumazeau est directeur de la rédaction de la Lettre de l'Expansion et Cécilia Gabizon, fondatrice de la School Media Maker. Direction Londres avec l'interminable feuilleton de la sortie des Britanniques de l'Union Européenne, le Brexit. En verra-t-on un jour la fin ? Un amendement a été voté tout à l'heure à Westminster, un amendement assez technique pour reporter l'examen de l'accord obtenu cette semaine par Boris Johnson à Bruxelles. Joie des anti-Brexit réunis au moment du vote.
Comme beaucoup de monde ici, je pense que même si nous sortons de l'Union européenne, ce n'est pas la fin. Je vais continuer à travailler pour qu'on réintègre l'Union européenne.
Nous avons besoin d'un vote populaire. Le référendum initial a 3 ans et demi maintenant. Les gens disent vouloir appuyer la volonté du peuple, mais personne ne sait quelle est la volonté du peuple.
Je fais partie d'une génération qui a grandi en Europe, qui avait tous les droits que cela impliquait. Et nous avons l'impression qu'on nous les enlève, et qu'on les enlève aussi aux générations futures.
Cécilia Gabizon, on a entendu les anti-Brexit et certains qui réclament un nouveau référendum. Est-ce que c'est même envisageable aujourd'hui ? On a l'impression que tout est bloqué.
Moi, je dirais que vu tous les rebondissements, tout est envisageable, puisque ça fait donc 3 ans et demi le référendum. Et depuis, on a connu tellement de rebondissements, d'inattendus, que tout est envisageable. Parce que l'impression que ça donne, c'est qu'en tout cas, les anti-Brexit, les Remain, vont pas lâcher l'affaire, et ils sont à plusieurs niveaux. Il y a ceux qu'on a vus devant les manifestants, mais il y a aussi le travail des parlementaires, et on en parlait avant l'émission. C'est incroyable, parce que quelque part, c'est vraiment brin d'herbe par brin d'herbe. Ils tiennent le texte, ils tiennent l'accord, ils résistent, ils examinent, et on y comprend, ça rend complètement illisible tout ce process. Mais ce qu'on peut en comprendre, c'est qu'en tout cas, les anti-Brexit sont pas prêts de lâcher, et qu'ils vont batailler brin d'herbe par brin d'herbe, et que ce travail-là, ça se fait sans jamais de renoncement. Alors, par contre, il y a un point intéressant. Des sondages d'opinion disent que l'opinion britannique en a, hélas, du coup, qu'elle s'en désintéresse, qu'elle souhaiterait même que ce soit fait, histoire qu'on passe à autre chose. On nous citait l'exemple des paris. Vous savez que les Britanniques sont des parieurs fous. Ils ne parient plus sur Brexit ou not Brexit. Donc, tout ça illustrerait le désintérêt pour cette question, en tout cas l'extrême lassitude. Mais ce qu'on voit, c'est qu'il y a parmi les militants et parmi les parlementaires, ils vont pas lâcher l'affaire. Donc, un référendum, c'est possible.
Pour qu'il y ait référendum, d'ailleurs, il faudrait que les parlementaires se mettent d'accord et au final, eh bien, qu'ils votent un nouveau référendum. Pierre Dumazon, on les voit peiner à se mettre d'accord sur un texte. Qu'est-ce qui garantit qu'ils pourraient se voter un autre texte qui
Rien. Rien ne garantira qu'un nouveau texte sera voté. La situation, elle est quand même, elle est pas simple. Mais d'un côté, on a un Boris Johnson qui joue la carte de l'autorité parce que c'est la seule qui lui reste. Et de l'autre côté, on a un Parlement britannique complètement politisé qui gagne du temps. Qui gagne du temps pourquoi ? Pour refuser de faire appliquer une décision votée par le peuple britannique, par référendum, et qui a, c'était rappelé dans le reportage, qui a quand même 3 ans et demi. Et autour de tout ça, on a une Union européenne qui est complètement bloquée, à l'arrêt, et dont on attend les derniers atermoiements britanniques. C'est insupportable pour l'Union européenne, c'est insupportable pour le peuple britannique.
Ça fragilise aussi l'Union européenne ?
Bien sûr que ça fragilise l'Union européenne, parce que tout est plus ou moins en suspens. On attend la énième décision. Est-ce que Boris Johnson sera encore là dans 6 mois ? On ne sait pas. Et tout ça est un petit peu insupportable. Et je pense même que les agissements du Parlement britannique vont finir par se retourner contre eux-mêmes, et que une partie de la population va finir par soutenir Boris Johnson. Je le pense, parce que là, c'est éminemment politique ce qui s'est passé.
Cécilia Gabizon.
Il y a des conséquences économiques assez importantes sur le Brexit. Donc il y avait des anticipations de ce qui allait se passer des milieux économiques. La croissance a régressé en Grande-Bretagne. Et en fait, ils ont calculé qu'il y avait déjà une perte de rendement, mais pour des tas de raisons intéressantes. D'abord, des prévisions mauvaises, mais aussi parce qu'il y avait du temps de cerveau qui était consacré à penser le Brexit et à accompagner les différents rebondissements. Aujourd'hui, ça représentait 3 heures par semaine d'un directeur financier, le temps qu'il consacre au Brexit et aux modifications de ce qui peut se passer. Donc en fait, c'est tout un pays qui est quelque part à l'arrêt et qui se consacre à cette décision-là. Alors en même temps, c'est une décision super importante. C'est super importante pour l'Europe, c'est super important pour les Britanniques. Donc ça mérite probablement que toute cette bataille, mais c'est fou d'avoir mis un pays à l'arrêt dans cette attente interminable.
La crainte, Pierre Jacquemin, qu'on répète ce soir, c'est celle d'un no deal, pas d'accord. On entend dire que ce serait un saut dans le vide et que c'est la raison pour laquelle il faut absolument un accord. Mais est-ce qu'on n'est pas déjà dans le saut dans le vide aujourd'hui en ne sachant pas ce qui va se passer concrètement demain, en fait?
Oui, c'est ce que j'allais dire. Accord ou pas accord, de toute façon, c'est un saut dans le vide et pour les Anglais et pour l'Union européenne, parce que les incidences, en tout cas les conséquences du Brexit, vont évidemment impacter la France, l'Allemagne, dans le cadre des échanges commerciaux, dans le cadre des négociations.
La France sera plus touchée que les autres partenaires ou pas forcément, d'ailleurs? Est-ce que la France sera plus touchée que le reste de l'Europe ou pas forcément?
Ouais, je pense qu'on risque d'être les premiers. On est un des premiers partenaires de l'Angleterre. Donc du coup, oui, la France risque d'être impactée. Mais moi, ce qui me frappe, c'est aussi cette impuissance, ou en tout cas cette forme d'abandon aussi. Je ne sais pas si c'est cet accord qui sera voté mardi prochain ou lundi prochain. On n'en sait rien. D'ailleurs, peut-être que d'ici là, on va annoncer qu'il va y avoir de nouvelles élections en Angleterre. Enfin, tout est vraiment de l'ordre du possible. J'ai même vu un papier sur le site de France Info où on nous expliquait les 9 scénarios possibles. Et même les 9 pouvaient être multipliés par 3 parce qu'il y a tous les scénarios sont vraiment envisageables. C'est ça qui est assez fou.
Il faut avoir été bon à l'école.
On pourrait même faire un prix du Brexit tellement je pense que les journalistes s'y perdent parfois à pouvoir expliquer. Il y a tellement de rebondissements de cette affaire que c'est assez fou. Mais quand même, moi, ce qui me frappe, c'est aussi l'absence de discours cohérent, que ce soit de la droite ou de la gauche anglaise. J'aimerais, par exemple, que si accord il est adopté, si les parlementaires signent l'accord qui a été validé par les deux parties, l'Union européenne et l'Angleterre, j'aimerais qu'en tout cas il y ait une mobilisation de la gauche qui dise ok, il y a un nouvel accord, mais il faut quand même repasser devant le peuple. Il faut que le peuple valide cet accord. C'est pas nous parlementaires qui ne sommes d'accord sur à peu près rien, qui pouvons décider du sort de l'avenir des Anglais. Donc je pense qu'on ne pourra pas échapper effectivement à un retour aux urnes, que ce soit pour de nouvelles élections ou en tout cas que ce soit pour valider cet accord précisément. Et j'en veux aussi à l'Union européenne, encore une fois, d'avoir laissé les Anglais. Quand on voit cet accord-là, pour moi, est un accord au rabais. L'Union européenne voulait absolument qu'il y ait un accord, qu'on aboutisse à un accord. Et je pense que, vous voyez, même Dominique Strauss-Kahn qui a décidé que du jour au lendemain que c'était très bien qu'en fait que les Anglais quittent l'Union européenne. Je trouve que l'Union européenne, là, a pêché aussi de négocier dans sa négociation de conviction et aussi à abandonner une partie du sort des Anglais.
Et dans quelques instants sera la question qui sera posée, que peut encore faire l'Europe? 20h40 sur France Info. Maureen Suinard nous a rejoint pour le rappel de l'info.
Une nouvelle journée de galère pour les usagers de la SNCF, mais la direction promet une petite amélioration demain. Un Ouigo sur 3 de prévu, pas d'indication encore pour les TER. Les cheminots assurent exercer leur droit de retrait après un accident, mais la SNCF et le Premier ministre Édouard Philippe dénoncent une grève sauvage. Les députés britanniques refusent de se prononcer aujourd'hui sur le texte négocié entre le Royaume-Uni et l'Union européenne. Texte arraché par Boris Johnson cette semaine. Cela relance l'incertitude autour de la date effective du divorce. Boris Johnson refuse d'envisager son report. Des affrontements au Chili, à Santiago, en ce moment même, entre des manifestants et les forces de l'ordre. Le gouvernement a instauré l'état d'urgence dans la capitale. Les manifestants se mobilisent contre l'augmentation du prix des transports. Le président turc Recep Tayyip Erdogan menace d'écraser les têtes des combattants kurdes à la frontière syrienne s'ils ne reculent pas. Les Kurdes qui annoncent reprendre leurs opérations contre le groupe État islamique. Les deux s'accusent mutuellement de ne pas respecter le cessez-le-feu négocié jeudi. En France, une nouvelle mobilisation contre le plan social chez General Electric à Belfort. 2600 personnes se sont retrouvées pour contester les 800 suppressions de postes prévues par la direction.
5 matchs en cours pour la 10e journée de Ligue 1. Reims mène 1-0 face à Montpellier. Cet après-midi, Lyon n'a pas réussi à s'imposer face à Dijon. Et puis rendez-vous demain à partir de 9h15. Le 15 de France affronte les Pays de Galles pour tenter de décrocher un ticket pour les demi-finales. Aujourd'hui, la Nouvelle-Zélande et l'Angleterre se sont déjà qualifiés.
France Info. Et tout est plus clair.
20h, 21h, les informés. Neil Alatrous.
Une sortie de l'Europe au 31 octobre, coûte que coûte, la promesse de Boris Johnson, le Premier ministre britannique. Promesse répétée après le vote tout à l'heure à la Chambre des représentants.
Je ne négocierai pas de délai avec l'Union européenne. Et la loi ne m'y oblige pas non plus. Je dirai à nos amis et collègues européens exactement ce que j'ai dit à tout le monde ces 88 derniers jours où j'ai servi comme Premier ministre, qu'un nouveau délai serait mauvais pour le pays.
Et l'Élysée fait savoir ce soir qu'Emmanuel Macron et Boris Johnson se sont entretenus dans cet après-midi et que un délai, dit l'Élysée, ne serait dans l'intérêt d'aucune partie. Question ouverte à nos informés, Cécilia Gabizon, tiens, fondatrice de la School Media Maker. Est-ce que la démission de Boris Johnson est inéluctable ?
Je ne sais pas, on l'avait déjà dit mort il y a quelques semaines, et il est toujours là. Donc franchement, en plus il a une capacité à rebondir et à survivre qui est incroyable. Et il y a aussi effectivement dans ce bras de fer là où les Britanniques en ont marre, il est aussi tout à fait possible qu'ils rallient Boris Johnson. Donc c'est impossible à dire aujourd'hui et surtout qui assurerait la relève.
En cas d'élection anticipée, hein, les sondages pour l'instant le donnent en tête à plus de 10 voilà. points. Pierre Dumasseau de la lettre de l'expansion. La Commission européenne appelle Londres à lui indiquer la marche à suivre. Est-ce que ça veut dire aussi que l'Europe elle est contrainte à regarder passer les trains et à se contenter d'être spectatrice, ou est-ce qu'elle a une marge de manœuvre là, maintenant, concrètement ?
Moi, je ne pense pas que l'Europe ait une marge de manœuvre incroyable, sinon elle nous l'aurait déjà fait savoir. Elle s'est montrée d'une impuissance quand même assez impressionnante depuis le temps que dure ce fiasco, mais disons cette séquence voilà, du Brexit depuis déjà 3 ans et demi, depuis le jour du référendum. Donc c'est un peu l'Union européenne. Elle n'a jamais été forte, et encore moins quand il s'agit d'être courageuse et de prendre des décisions importantes. Donc, il n'y a aucune surprise à ce qu'aujourd'hui, ni la Commission, qui est déjà affaiblie en elle-même, ni l'Union européenne, qui aujourd'hui n'a pas énormément de sens, ça n'a aucune surprise du fait qu'ils ne puissent pas agir sur le Brexit. Encore une fois, c'est une décision souveraine du peuple britannique. Donc,
Même question à Pierre Jacquemin, rédacteur en chef de Regard. Est-ce qu'en politique, on peut voir des dirigeants de l'Union européenne finir par perdre patience et dire, bon, bah, puisque c'est comme ça, quittons-nous sur un no deal et puis c'est tout.
C'est un peu ce qui se passe hein, en vrai. Hein. C'est-à-dire que moi, quand je parlais d'accord au rabais, c'est un peu ce qui s'est passé. Au final, l'Union européenne a fini par dire « Ok, très bien, on va lâcher là-dessus, on lâche là-dessus, on vous donne ci, on reprend ça et on va partir on va partir sur cet accord-là ». C'est exactement ce qui est en train de se passer. Moi, je comprends la petite marge de manœuvre quand même qui devrait être celle de l'Union européenne, et c'est là où je pense que Boris Johnson a parlé un tout petit peu vite quand il a dit qu'il ne renégocierait pas une date la date effective du Brexit du 31 octobre. Je pense qu'au contraire, la demande des parlementaires, le fameux amendement qui a été voté à quelques voix près qui exige justement que les parlementaires regardent un par un les articles qui ont été négociés dans le cadre de cet accord, ça me paraît relever d'une légitimité absolue. Dans un moment où il y a une révolution historique qui se passe au Royaume-Uni, c'est logique que les parlementaires représentants du peuple regardent les points un par un.
C'est
pas un artifice, je pense que c'est un véritable exercice démocratique, c'est presque une leçon de démocratie. Ça n'empêchera pas l'accord de passer, ça n'empêchera pas l'accord d'être adopté quoi qu'il arrive. Donc je pense que Boris Johnson aurait tort de s'entêter à dire il ne faut pas négocier. Et de l'autre côté, l'Union européenne, et là Emmanuel Macron, aurait tort de s'entêter à dire il faut un départ au 31 octobre. Non, je pense que maintenant on n'est plus à 2 ou 3 mois près, on voit qu'on est quand même presque au bout du bout et on va y arriver. Il faut que cet accord puisse être validé des deux parties, mais il faut qu'il puisse être clairement débattu au sein de l'hémicycle, au sein de la Chambre britannique.
Et la presse britannique, justement, qui nous rappelle le contexte un peu général de ce vote, des députés qui disent avoir reçu des menaces de mort, qui ont réclamé une protection rapprochée. Je profite de la présence de Geneviève Garrigaud, responsable Amérique d'Amnesty France, pour demander est-ce que la Grande-Bretagne, elle connaît une crise autour du Brexit, ou est-ce que c'est une crise de la démocratie plus vaste qui s'applique précisément là, à la Grande-Bretagne ?
En fait, ce que l'on constate, effectivement, c'est que on voit par rapport au référendum, dans quel contexte ce référendum, et on a vu comment il avait été contesté, notamment après tout le fait qu'on avait dévoilé l'influence de Cambridge Analytica dans les élections aux États-Unis et l'impact que ça aurait pu avoir sur le Brexit, etc. Le fait que les gens ne savaient pas exactement à quoi ils allaient être confrontés. Mais paradoxalement, et c'est ce qui est presque rassurant, à une époque, on voit nombre de gouvernements qui adoptent des mesures par décret qui les imposent, etc. On voit comment des démocraties qui ont des structures, je dirais, des institutions qui sont bien ancrées, justement, arrivent à résister, arrivent à avoir des contre-pouvoirs qui soient fonctionnels. Et derrière tout cela, effectivement, ça a déjà été dit, de savoir que les parlementaires peuvent dire, avant de voter, nous, on va regarder exactement ce que contient ce traité, eh bien, c'est plutôt une bonne chose, justement, par rapport au fonctionnement des institutions et de l'État de droit.
Cécilia Gabizon, est-ce que c'est un fonctionnement démocratique sain auquel on assiste, avec ses difficultés, ses atermoiements, ses retournements ?
En tout cas, c'est intéressant parce que alors il y a deux choses qui sont intéressantes. Il y a la démocratie parlementaire, elle marche, elle garantit en fait quand même l'examen dans des tempêtes d'opinion, etc., et de manipulation. Et le deuxième chose, je pense que ça va devenir un process qui va se généraliser, c'est l'examen article par article. C'est-à-dire que c'est fini le moment où on allait nous vendre un paquet global sur quoi que ce soit. Et là, je voyais le travail sur la loi travail. Les activistes sur la loi travail, par exemple, il y a deux ans, avaient décomposé la loi par article et l'avaient en fait, en quelque sorte, c'est de l'activiste du design politique, et avaient matérialisé chaque article pour que chacun puisse en prendre connaissance, puisse travailler sur un article. Et ça, je pense que ça va faire partie de la démocratie moderne, qui est il n'y aura plus un paquet avec des spécialistes qui s'en occupent, mais chacun devra s'en saisir et l'examiner dans le détail.
Et on va revenir en France, s'intéresser à notre démocratie. À nous, avec la petite phrase de Jean-Michel Blanquer qui n'en finit pas de semer le trouble dans la majorité. Le voile n'est pas souhaitable de notre société, avait-il dit dimanche dernier, le ministre de l'Éducation. Réponse du patron d'En Marche dans le Figaro aujourd'hui, Stanislas Guérini. Je ne crois pas que le voile en soi soit un problème dans notre pays. Pierre Dumazeau, directeur de la rédaction de la Lettre de l'Expansion. Question toute simple ce soir, est-ce que Jean-Michel Blanquer est isolé dans sa majorité ?
Il est en tout cas isolé, je ne sais pas, mis en difficulté politique, ça c'est une certitude. Je pense que là, le gouvernement paye encore une fois son ambiguïté sur ce qu'elle pense et ce qu'elle veut faire. Et par le gouvernement, on peut extrapoler par ce que pense véritablement le chef de l'État sur la question de la laïcité. Aujourd'hui, nous ne le savons pas. Donc, effectivement, quand on voit la déclaration de Jean-Michel Blanquer avec un quart d'heure plus tard, la porte-parole du gouvernement qui se dit mal à l'aise, qui dément la ministre de la Santé, etc., etc., ça ne peut donner qu'une impression de cacophonie générale. Pourquoi ? Parce que ce gouvernement, et pas seulement, même sous François Hollande et même sous Nicolas Sarkozy, la question de la laïcité, la définition même de la laïcité dans notre République n'a jamais été tranchée. Et Emmanuel Macron n'a jamais fait de déclaration très clair sur ce qu'il voulait.
Il y a eu le Conseil d'État, il y a eu d'autres des instances qui se sont exprimées sur des cas précis.
Ah non, mais certes, les instances se sont exprimées, mais en termes politiques. Je dis, ça surprend qui aujourd'hui que le gouvernement dise à peu près tout et son contraire, ou même que la majorité parlementaire dise tout et son contraire, parce que personne ne sait en fait quel est le projet là-dessus, vers où le gouvernement veut nous emmener là-dessus, on ne sait pas.
Et ben la question, je la poserai juste après le rappel de l'information, 20h50, Maureen Suinard, le rappel de l'info sur France Info.
Des femmes qui s'écroulent en même temps à Paris sur 5 places différentes. Action du collectif Nous Toutes qui lutte contre les féminicides dans le pays. Depuis le début de l'année, 121 femmes sont mortes tuées par leur conjoint ou leur ex. C'est autant que toute l'année dernière. On ne détourne pas la loi. Le secrétaire général de l'UNSA ferroviaire se défend sur France Info. Une réponse au Premier ministre qui accuse les cheminots de détourner leurs droits de retrait. Les conducteurs et contrôleurs ont cessé le travail après un accident dans les Ardennes. Les perturbations vont se poursuivre demain. La direction prévoit un Ouigo sur 3. Les prévisions pour les TER seront connues demain matin. L'interminable feuilleton du Brexit. Les députés britanniques décident de ne pas se prononcer aujourd'hui sur le texte qui prévoit le divorce. Un texte négocié par Boris Johnson cette semaine avec Bruxelles. Les parlementaires veulent l'examiner de près, mais cela pourrait prendre plusieurs semaines. Des dizaines de milliers de Libanais dans les rues du pays. Aujourd'hui, une troisième journée de mobilisation, notamment à Beyrouth.
Tripoli ou encore Tyr. Il dénonce une classe politique corrompue. C'est la pause sur les pelouses de Ligue 1. 5 matchs en cours pour la 10e journée. Nîmes mène face à Amiens 1-0, tout comme Reims face à Montpellier. Pas d'ouverture de score pour les autres. Cet après-midi, Lyon n'a pas réussi à s'imposer face à Dijon. Et puis prudence en Ardèche, Météo France place le département en vigilance orange. Des orages et des fortes pluies sont attendues jusqu'à demain soir minuit.
France Info. Et tout est plus clair.
20h, 21h, les informés. Neil Alatrousse.
Faut-il y voir un nouveau bras de fer sur fond de laïcité? Stanislas Guérini, le patron du parti En Marche, prend la parole aujourd'hui dans le Figaro en disant également ceci. Je suis pour le respect d'un principe fort, l'État est laïque et non la société. Geneviève Garrigou, responsable Amérique d'Amnesty France, quand il dit l'État est laïque et non la société, c'est une position pour le moins différente de celle du ministre de l'Éducation.
Oui, mais c'est celle qui correspond au droit français. C'est-à-dire que depuis la loi de 1905, il est clair, c'est l'État qui est laïque. Et qu'est-ce qu'on entend par laïque, d'ailleurs? C'est qu'il est neutre par rapport aux religions. Et c'est pas les religions qui doivent dicter les règles pour l'ensemble de la société. Or, on peut pratiquement dire que Monsieur Blanquer, quand il estime que le voile n'est pas souhaitable dans la laïcité, eh bien,
il dit dans la société, d'ailleurs.
Oui, dans la société, il enfreint la laïcité, c'est-à-dire la neutralité à laquelle l'État est tenu, puisque en tant que membre du gouvernement, il ne devrait pas émettre un avis justement par rapport à une religion ou par rapport à un signe qui est censé être religieux. Donc, de facto, effectivement, il doit y avoir séparation. Et ce n'est pas à l'individu d'être laïque, c'est à l'État. Ce sont deux choses très, très différentes.
Pierre Jacquemin, rédacteur en chef de Regards. On sait que mercredi, Jean-Michel Blanquer a reçu une vingtaine de parlementaires de la majorité pour une réunion informelle. Est-ce qu'on en est déjà à compter les soutiens, j'ai envie de dire?
Sans doute, il doit se sentir un peu esselé en ce moment, Monsieur Blanquer. Mais moi, j'ai été vraiment choqué de cette phrase souhaitable. Qu'est-ce qui est souhaitable pour le ministre de l'Éducation? Qu'est-ce qui n'est pas souhaitable plutôt? C'est le voile, c'est l'islam, c'est les musulmans. Enfin, c'est toute cette discussion.
Vous avez été choqué.
Oui, c'est choquant que le ministre se mette en dehors de la loi de la laïcité parce qu'il n'a pas à ingérer, il n'a pas à s'immiscer sur la vie d'un musulman, sur la vie d'une musulmane en l'occurrence, parce que c'est quand même beaucoup les femmes qu'on pointe du doigt depuis quelques semaines sans qu'on leur donne nécessairement la parole. D'ailleurs, vous noterez, hein, beaucoup. On a beaucoup débattu de la question du voile sans jamais pratiquement donner la parole à ces femmes-là. Et donc je pense qu'il crée un climat, ou en tout cas il crée, pas lui seul, hein, il y a beaucoup de monde hein, quand même qui participe de ce climat qu'il faut appeler raciste. Il y a un climat de racisme, de anti-musulmans dans ce pays. Et je me félicite d'ailleurs qu'il y ait une manifestation cet après-midi qui a été plutôt bien accueillie avec pas mal de manifestants pour soutenir l'ensemble des musulmans de France. C'était à Paris, avec le soutien de forces politiques, de syndicats et d'associations, c'était plutôt une bonne chose parce que je pense qu'on en arrive à une situation où le climat est tellement délétère que les femmes, notamment les femmes voilées, se retrouvent à rester chez elles, à avoir peur de sortir de chez elles, à avoir peur quand vous avez un journaliste qui vous explique parce qu'il a peur d'une femme voilée, il quitte son bus parce que au cas où on ne sait jamais, je ne sais pas quoi d'ailleurs, le journaliste qui nous explique que le voile est comparable à un vêtement SS, mais de quoi
derrière.
D'accord, il l'a expliqué derrière, mais il l'a dit sur un plateau de télévision où les gens écoutent et ils pensent que les journalistes ils disent des choses justes. Ce débat, l'hystérisation de ce débat, cette haine anti-musulman, parce que c'est vraiment une haine anti-musulman, est insupportable. C'est quoi qui est danger? C'est quoi le danger aujourd'hui? C'est le voile d'une femme ou c'est le fait que la France aujourd'hui passe des accords et vende des armes en Arabie Saoudite? Il faut à un moment donné qu'on rappelle les choses. Alors, il faut juste que les hommes et les femmes politiques se disent que les femmes voilées, ce sont des femmes qui ont fait le choix de se voiler, mais qui ne sont pas une menace pour personne. Il faut arrêter
beaucoup
ce débat.
Beaucoup de choses dans votre propos, hein. Pierre Jacquemin, je veux faire réagir Cécilia Gabizon de la School Media Maker avec deux questions. La première, vraiment pour le coup, à la formatrice en journalisme sur la question de la présence ou pas de femmes voilées, est-ce que vous, dans votre école, vous formez les gens en disant attention, il faut inviter les principaux concernés, etc. Et puis ensuite, la haine, le climat délétère, le racisme anti-musulman qu'évoquait Pierre Jacquemin.
Oui, alors dans notre école, il y a et notamment à Marseille, on a des filles beaucoup de filles de familles musulmanes, certaines voilées, d'autres pas. C'est une discussion super intéressante. On a toujours une discussion. Là, par contre, c'est un sujet complètement inflammable tout le temps. Donc, on a beaucoup de discussions. Là, elles ont fait des sujets, par exemple, sur les femmes voilées qui créent leur propre business. Parce que j'ai dit, mais il faut sortir d'un truc larmoyant. À un moment donné, il faut redistribuer la parole. Les gens vont s'emparer de leur vie et la raconter. Donc, nous, on a plutôt un traitement où, en fait, on redistribue toujours la parole. C'est-à-dire, on fait pas de captation de parler à la place des autres, mais on essaie de faire parler les gens, de contextualiser, d'aller trouver et de permettre aux gens de s'exprimer. Ensuite, sur l'hystérisation, moi je dirais deux choses. Le sujet du voile, c'est un sujet un peu dingue qui rend les gens fous. Par contre, il existe. Alors, il faut pas le confondre avec le sujet, je dirais, de la laïcité, qui est l'État est neutre. Et la loi laïcité à l'école a été une loi très intéressante et qui a été une loi qui a finalement garanti, qui a sanctuarisé un espace d'apprentissage où il n'y avait pas de signes religieux ostentatoires. Et je pense qu'elle a fonctionné. Moi, j'ai longtemps suivi j'ai suivi tous les débats autour de cette loi. Je pense qu'elle a fonctionné. Par contre, faut pas confondre. On va pas réglementer la visibilité des religions dans la société. C'est-à-dire que la société, l'espace public est libre, et notamment parce que tout ça part quand même de l'accompagnement des sorties scolaires. Mais ça n'empêche pas, par contre, de pouvoir se poser des questions sur quel genre, des questions idéologiques. Que représente le voile? Je parle pas de maltraiter les gens, je parle pas de les discriminer, je parle de questions idéologiques. Et là, il s'agit pas de légiférer ni de s'agresser, mais le débat est ouvert, peut-être pas mené par le ministre de l'Éducation, mais le débat sur ce que ça représente, ce que ça veut dire, comment on a envie de vivre, ça c'est un débat qui est, à mon sens, aussi intéressant.
Et débat que devra trancher sans doute le président de la République, qui a indiqué qu'il prenait le temps d'apporter les réponses, qu'il ne réagissait pas dans le flot de l'actualité. Merci à nos informés du samedi 20h57 sur France Info. Merci à Pierre Jacquemin, rédacteur en chef de Regards, Geneviève Garrigaud, responsable Amérique d'Amnesty France, Pierre Dumazeau, directeur de la rédaction de la Lettre de l'Expansion, Cécilia Gabizon, fondatrice de la School Media Maker. Demain, l'invité du 8h30 de France Info, Gérard Collomb, l'ancien ministre de l'Intérieur et maire de Lyon. Et en attendant, la météo et le journal. Bonne soirée sur France Info.